Enseignement de la soirée. Et pourquoi? Je suis persuadé que tout ce que je veux dire, finalement, c'est un petit essai de faire passer la parole de Dieu, et le message du Christ qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, si nous voulons connaître vraiment Jésus, si nous voulons connaître vraiment Dieu, c'est absolument indispensable que nous lisions la Bible. Je pense qu'on parle beaucoup des péchés dans l'Église. Bon, je ne suis pas un spécialiste des péchés, même si on dit que le prêtre s'en occupe beaucoup. Mais si on peut parler d'une faiblesse de notre communauté catholique, c'est peut-être vraiment la grande faiblesse, c'est qu'on ne lit pas vraiment la parole de Dieu. Ou bien on lit très peu, ou bien on lit la parole comme une curiosité, comme quelque chose à réfléchir. Et je vous assure, j'espère ou je pense, je crois que beaucoup même peut-être toutes les personnes présentes ici, vivent de la parole de Dieu. Comme on mange ces bons plats, ces bons repas préparés par la cuisine, pour savoir bouger, marcher, travailler. Et je pense que la parole du Christ, la parole de Dieu, c'est la même nourriture et même beaucoup plus grande parce que cette parole nous guide, nous donne la force à avancer vers Dieu. Donc voilà, c'est pourquoi je vous offre ce quelques rayons de lumière provenant des évangiles. Et quand j'étais un jeune lycéen, comme tous les jeunes lycéens, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que quand on a 15, 16, 18 ans, il est évident qu'on passe beaucoup de temps à tomber amoureux, et même plusieurs fois, et ça prend beaucoup d'énergie. Mais quand même la tête commence à fonctionner un peu plus, de plus en plus, et à part ces histoires amoureuses, on commence à se poser des questions, même justement si ça ne marche pas toujours au niveau des relations avec des amis, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est ainsi? Et je n'ai pas eu beaucoup de chance à observer le monde, le grand monde, mais quand même j'ai eu l'occasion à lire, à comprendre, à poser des questions. Et j'ai rencontré même des prêtres qui voyagent un peu dans le monde. Et j'étais toujours, disons, religieux, comme je vous dis, croyant, pas toujours très fort. La vie marche un peu mieux sans Dieu. Donc, dans mes années lycéennes, du lycée, je cherchais vraiment une chose, quelque chose du concret, un signe, pour que je puisse vraiment me dire, il est là. Il est vraiment là, parce que sinon, en plus, à l'époque où j'étais au lycée, c'était le régime communiste chez moi se développait à la plus belle. Donc, à part ma paroisse, partout, j'entendais, écoute Dieu, non, c'est fini, c'est pour des personnes qui sont complètement malades mentales ou qui ne se débrouillent pas, qui sont faibles. C'est pour eux la foi, mais pour des costauds, des jeunes, des intellectuels, tu as toutes les capacités pour vivre sans Dieu. Et c'est vrai que j'étais tellement critique dans ma raison, dans mon intelligence, que je n'arrive même pas à croire aux grands miracles. On parlait toujours des apparitions, des miracles. Je me suis dit, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Peut-être si je voyais un jour la Vierge Marie me dire, bonjour Yareg, je suis là. Et maintenant, même ça, ce ne serait pas très sûr. Et donc, dans mon entourage des amis, justement, il y avait des jeunes qui étaient comme moi, des jeunes qui étaient beaucoup plus avancés dans la foi, mais il y avait beaucoup de jeunes qui étaient complètement loin de Dieu. C'était quand même mes amis. J'étais assez intelligent pour comprendre que ce n'est pas tout à fait clair et qu'on n'est pas libre à choisir sa foi ou sa non-croyance. On est plutôt poussé à ne pas croire. Donc, Et parmi tous ses amis, il y avait vraiment un certain Pierre avec qui vraiment on a grandi ensemble. Et à un moment donné, il a vécu quand même une crise au niveau de sa famille. Il y avait un grand déchirement du couple de ses parents quand il avait 13-14 ans. Donc il s'est révolté totalement. Il est devenu vraiment un rébellion, un anarchiste. Il a fait même partie d'un groupe des anarchistes dans les années 80. Moi, ça, je l'ai appris beaucoup plus tard que le régime communiste, quand même, manipulait fort la jeunesse et il faisait deux choses. Ou bien, il construisait des milieux de jeunes vraiment fidèles aux idéaux communistes, des mouvements de jeunesse qui étaient vraiment bien encadrés, qui s'exprimaient comme des futurs cadres du parti. Mais je ne savais pas à l'époque, et ça j'ai appris un peu plus tard, que le régime a contrôlé très fort ce que je vous ai dit, le milieu anarchiste, des rébellions. Moi je pensais qu'ils sont contre le régime, mais en réalité ils étaient bien, bien contrôlés, surtout par la police secrète. Eh bien, j'ai bien compris parce qu'ils étaient bien sûr, entre guillemets, contre le régime, mais ils étaient surtout contre l'Église. Ah, voilà. Et donc, mon ami Pierre, il faisait partie d'un petit groupe, et je savais que parfois, il jetait des pétards, il jetait, je sais pas quoi, des bouteilles avec des ordures, même dans des églises, pour embêter les gens pendant la messe. Et bon, un jour. Et bon, c'était une fête parmi des amis, il y avait quelques-uns qui ont bu trop, parmi eux, mon cher collègue. Et bon, il est venu me voir un peu dans un état pas très présent, et il a dit, tu sais Yarek, est-ce que tu connais un prêtre? Je dis, j'en connais quelques-uns, parce que j'ai besoin d'en parler avec un. Je dis, d'accord, mais... Ah oui, tu sais, parce que je pense que Dieu m'a touché, j'ai rencontré Dieu. Je dis, j'espère que pas maintenant, parce que dans ton état, c'est pas très sûr de rencontrer Dieu. Mais je dis, ok, mais on en parlera plus tard, demain après demain, quand tu seras vraiment en forme, on en parlera. Et je le vois le lendemain, en pleine forme, il dit, Yarek, mais donc alors, tu peux m'aider à rencontrer un prêtre? Je dis, c'est grave, il y a quelque chose. Ah oui, il dit, ah oui. Dumas, si tu peux, qu'est-ce qui est arrivé? Ah bon, tu sais, justement, le dimanche passé, avec quelques copains, on s'est préparé pour aller à la paroisse et faire du bruit pendant la messe pour déranger les fidèles et les prêtres, pour les embêter. Et j'étais bien motivé. On est rentré à deux à l'église, les autres sont allés ailleurs. Et justement, je rentre dans l'église pour vraiment embêter tous les fidèles. Et c'était juste au moment du credo. Et les gens récitaient la phrase « Je crois en Jésus-Christ ». Et j'ai entendu cette phrase et j'étais comme arrêté par un mur. J'étais paralysé, je ne pouvais pas avancer en pleine foule. Et je me suis dit « Bon Dieu, si cette foule dit ensemble « Je crois en Jésus » et il y a quelque chose ». Et puis il a dit, je sentais que c'était tellement présent, il y avait quelque chose de tellement fort à côté de moi, de tellement beau, jamais connu par moi, une telle douceur, une telle profondeur, une telle vérité. Je tombais à genoux et je commençais à pleurer. Et je restais comme ça assez longtemps. Et puis parce que j'avais honte, donc j'ai quitté l'église en pleurant. Et voilà, et je me suis dit que voilà, c'est certainement Dieu qui m'a touché, certainement. Ah ben voilà, donc j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose. Et moi, j'étais tellement étonné parce que finalement, après son témoignage d'un garçon pour qui j'avais beaucoup de soucis, c'est lui qui m'a aidé, et qui m'a aidé à trouver ce que j'ai cherché. Je me suis dit, Dieu, vraiment, je te dis merci, parce que tu m'as montré que tu existes. Tu n'es pas entré directement dans ma vie, mais tu l'as fait par la vie de mon cher ami Pierre, qui t'a rencontré d'une façon tellement concrète que je n'ai plus de doute. Tu es là. Tu es vraiment présent dans ce monde. Et tu fais tout ce qui est possible pour nous rencontrer. Pour vous dire brièvement, Pierre, quelques jours après, il a vraiment rencontré un prêtre. Il a passé toute une longue soirée à se confesser, à prier. Et bon, il a maintenant un papa heureux. Et il a des enfants et sa première fille va se marier bientôt. Bien sûr que je vais bénir ce mariage. Donc, voilà. C'est une histoire qui peut arriver à tout le monde, mais c'est une histoire tellement profonde que, ben, non seulement à partager, non seulement à vivre, mais c'est une histoire qui me pose depuis toujours cette question, qui est vraiment cette personne dans ma vie? Comment fait-il que cette personne du Christ, de Jésus, s'est entrée dans notre existence sans bouleverser notre liberté, sans nous vraiment priver de notre intelligence ni de notre volonté. Et finalement, cette présence de Jésus nous donne la vraie liberté. Mais comment? Ça, je vais essayer de réfléchir avec vous. Mais pour savoir comment, je me pose d'abord avec vous la question, alors, qui est-il ce Jésus? Qui est-il cette personne? Comment fait-il que depuis presque 2000 ans, des centaines de millions de personnes ont vécu cette expérience incroyable, particulière et profonde, de sa rencontre avec lui? Et d'abord, c'est la première question. Jésus, vraiment, a-t-il vraiment existé? A-t-il vraiment existé comme moi j'existe maintenant, comme vous vivez, comme a-t-il vraiment existé dans notre histoire? Et il est évident, quand j'étais jeune, justement, on nous disait souvent à l'école, mais non, écoutez, Jésus, c'est une légende, c'est un mythe. Selon l'enseignement officiel des historiens soviétiques, c'est un mythe. On l'a cherché partout, on n'a jamais trouvé des preuves. Donc voilà, histoire inventée. Et mais non, je me suis dit, c'est pas un mythe. C'est vrai que Jésus, il a quand même, il y a un petit problème historique avec lui. Bah, l'histoire, d'abord, c'est une science qui n'est pas toute puissante. Vous savez comment ça fonctionne. L'histoire, pour être honnête, elle doit se servir de documents écrits ou archéologiques, ou de documents matériels. Sinon, l'histoire ne sait pas dire grand-chose. Et c'est pourquoi, très souvent, au niveau historique, des théories changent parce qu'on trouve des nouveaux documents, ou bien on trouve des matériaux archéologiques qui changent, des récits historiques. En tout cas, pourquoi Jésus, la vie de Jésus trouve quand même une difficulté historique? D'abord parce qu'il est né dans un tout petit pays, vraiment sans aucune grande importance. La Belgique, c'est un très grand pays par rapport à la patrie de Jésus à l'époque. Pour les Romains, la Palestine, c'était vraiment quelque chose de tout petit. Plus petit que, je sais pas, le Kyrgyzstan. Voilà, le Kyrgyzstan, c'est un pays quand même qui existe, mais on s'en occupe pas beaucoup. Hein. Donc, le pays de Jésus, c'était un petit Kyrgyzstan dans l'Empire romain. Et ceux qui étaient envoyés travailler en Palestine n'étaient jamais contents parce que, d'abord, le peuple était, pour les Romains, un peu civilisé, avec des religions bizarres et des comportements vraiment très spéciaux. Donc, on ne s'occupait pas beaucoup à l'époque, au niveau de l'histoire officielle, des documents, des documentations officielles, on ne s'occupait pas beaucoup du pays du Christ. Et puis, c'est vrai que, à partir du moment où Jésus est devenu une personne très importante, regardez bien, depuis des premiers siècles, de l'histoire de la chrétienté, du christianisme, Jésus a beaucoup dérangé. Parce que ce n'est pas juste un grand monsieur qui a fait des grandes choses, mais justement c'est quelqu'un qui a fait des grands signes, qui est mort et ressuscité, et qui a fondé une grande communauté vivante qu'on appelle l'Église catholique, l'Église chrétienne. Donc, il a fort dérangé. Donc, on a fait beaucoup de choses pour, disons, pour contrefaçonner la vraie histoire de Jésus, pour déranger aux autres de le connaître bien. Donc, à travers des siècles jusqu'à aujourd'hui, regardons bien, il y a toujours des personnes qui, en s'appuyant sur l'autorité scientifique, racontent n'importe quoi sur l'histoire du Christ. Mais pourtant, nous trouvons des vrais documents historiques sur Jésus. Et nous trouvons des documents qui proviennent presque de son époque. Il y a un historien d'origine juive qui écrivait pendant des premiers siècles, vraiment, mais qui pouvait même avoir des sources, des amis, des témoins vivants du Christ, qui s'appelle Joseph Flavius, qui a écrit sur Jésus comme sur une personne concrète en disant, voilà, en Palestine, il y avait un Jésus qui provenant de Nazareth, un homme remarquable qui a vraiment fait des choses qui ont fort, fort marqué sa communauté et sa société, aussi bien qu'un écrivain romain, Tacite, qui écrit à peu près de la même façon, qui donne des témoignages écrits. Et ce sont des témoignages qui sont très proches de l'époque de Jésus, des témoignages historiques, des documents historiques. Donc, c'est quand même une grande chance. Voyant la difficulté que je viens de vous un peu dessiner, et quand même, nous avons des documents qui ne sont pas des documents chrétiens, qui sont ou bien d'origine, disons, juif ou d'origine païenne, et qui parlent de Jésus d'une façon concrète et d'une façon tout à fait historique. Bon, et puis nous avons bien sûr des milliers de témoignages écrits, parfois très, très, vraiment très fantastiques, très fabuleuses, et qu'on a fait sur Jésus. Et nous avons aussi ce qui est pour nous le témoignage le plus cher, ce que nous appelons la parole de Dieu, la Bible, le Nouveau Testament, qui, à part son rôle primordial dans notre foi, est aussi un livre historique. Bon, on pouvait dire toujours, oui, ben, les chrétiens avaient vraiment un grand intérêt à manipuler tous ces témoignages, surtout au niveau de la Bible, pour que les autres, jusqu'à aujourd'hui, croient que voilà, Jésus était grand et tout ce qu'il a fait était vrai. Même dans cet aspect-là, c'est pas facile de manipuler les textes, parce que je peux vous dire que pour avoir ce que nous avons au niveau du Nouveau Testament, au niveau des témoignages historiques, au niveau des évangiles, depuis des siècles déjà, et surtout depuis à la dernière époque, on utilise des méthodes tout à fait, disons, sérieuses et qui ne sont pas inventées par les croyants. Et ce sont des méthodes de la critique textuelle, littéraire, qu'on utilise pour analyser les textes que nous recevons. Donc, c'est même pourquoi nous pouvons dire, voilà, ce manuscrit, voilà qu'on a trouvé quelque part, nous allons le moyen pour analyser un manuscrit, et ça peut être même une personne qui n'y croit pas du tout, elle sait analyser un texte pour dire, voilà, ça c'est un texte authentique, c'est un texte qui parle vraiment ce qu'il est écrit et qui n'a jamais été manipulé, on n'a jamais ajouté, ni barré, ni gommé quelque chose qui se trouve dans ce manuscrit. Et puis nous pouvons être sûrs que la source chrétienne des textes bibliques, des manuscrits du Nouveau Testament est très riche parce que nous connaissons à peu près 5 000 manuscrits en grec qui sont faits entre 3e et 5e siècle. C'est tout proche, point de vue historique et scientifique, ce sont des documents très très récents, très proches de l'époque du Christ. Et puis, disons, la naissance de l'Empire chrétien, nous connaissons plus que 10 000 manuscrits écrits en latin. Donc, c'est la Bible transmise en latin, réécrite pendant des générations. Donc, nous avons vraiment des possibilités formidables pour comparer les textes et nous dire on a manipulé ou manipulé pas. Donc, d'après toutes les recherches bibliques et littéraires, la constatation, elle est simple. Le texte que nous avons devant nous quand nous lisons le Nouveau Testament est un texte authentique. parfois pas très bien traduit en français, mais authentique. Ce n'est pas un texte qui est vraiment inventé il y a, je sais pas, au XIIIe, XIVe ou XVe siècle. Bon, qu'est-ce que nous savons alors, d'après toutes les sources, d'après la Bible, d'après les témoignages historiques? Nous savons d'abord que Jésus était une personne vivante, un homme, sexe masculin, qui est né en Palestine, à Bethléem, qui a vécu sa jeunesse et son enfance à Nazareth, un jeune homme d'une famille plus ou moins aisée. Ça, c'est une petite légende que ses parents étaient pauvres. Non, ils avaient une vie assez simple, mais son papa, disons son papa terrestre, Joseph, était quelqu'un de métier. Charpentier à l'époque, c'était quelqu'un de métier, très respecté. Avec ce métier, il pouvait bien gagner sa vie et nourrir sa famille, et même avoir une belle maison avec un bon jardin pour sa femme. Donc, c'est la jeunesse de Jésus que nous pouvons connaître à partir des textes et des sources historiques. Mais bon, jusqu'aujourd'hui, on se pose une grande question. Alors, oui, un homme qui a vécu sur la terre, d'accord, qui avait une famille normale, ok, qui a fait des choses remarquables, qui a fait même des signes, qui a parlé d'une façon impressionnante, et qui a poussé les foules, même les foules, à changer sa vie. Mais ce n'est qu'un homme, soyons d'accord. Il était comme tout le monde, il mangeait, respirait, il buvait le vin, et parfois il chantait, parfois il dansait. Un homme, remarquable, mais un homme. Même aujourd'hui, on essaye de le dire très souvent. Mais c'est pourquoi de ne pas croire à la divinité de Jésus, parce que nous les hommes, on ne croit pas d'abord à notre humanité, à la dignité que Dieu a donnée à la nature humaine. Donc c'est aussi une très très vieille histoire, parce que cette grande discussion, ce conflit sur la nature de Jésus, elle date des 3e siècle, et même au début du 5e siècle, il y avait une grande discussion à l'Église, qui était poussé par un certain Nestorius, qui disait « Oui, Jésus, d'accord, mais il ne pouvait pas être fils de Dieu, parce que Dieu déteste cette nature pourrie des hommes. Ce n'est pas possible que Dieu s'incarne dans une réalité terrestre où il y a plein des insectes, des virus, des maladies, où les hommes font de n'importe quelle bêtise. Ce n'est pas possible. » Mais finalement, on a convoqué un concile en 430 après Jésus, on a dit « Nestorius, tu n'as pas raison, parce que d'après les témoignages des apôtres, d'après la foi de notre communauté chrétienne, nous croyons que Jésus est le vrai Fils de Dieu, homme né sur la terre de la Vierge Marie, mais le Fils de Dieu, envoyé par son Père pour sauver les hommes, pour sauver le monde, et pour te sauver aussi toi, Nestorius, et les autres qui racontent n'importe quoi sur sa vie. » Mais c'est bien que cette question reste toujours ouverte. Et c'est bien que Jésus, s'il venait maintenant ici, il pourrait s'arrêter parmi nous, et comme il l'a fait avec ses disciples, il pouvait bien nous poser cette question. Dites-moi. D'abord, dites-moi, au dire des gens ici à Wavre ou à Bierge ou à Bruxelles, qui suis-je? Qui suis-je? Dites-moi, qui suis-je? D'après les médias, vos voisins, vos amis, essayez de savoir qui suis-je. Répondez-moi maintenant à cette question. On va réfléchir, on va lui dire, pour beaucoup de gens, tu n'existes plus. Ils t'ont oublié. Pour les autres, tu es une légende. Pour quelqu'un, tu es un prophète. Et pour certains, tu es quand même une force qui aide les hommes. Mais d'accord, ça va, je connais bien les opinions des Belges de notre époque actuelle. Donc maintenant, dites-moi, pour vous, ici, pour toi, qui suis-je? Que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses dans ton cœur, dans ta tête, le nom de Jésus? Es-tu prêt à dire comme Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Es-tu prêt à dire cette phrase, non seulement avec ta bouche, mais avant tout avec ton cœur? Es-tu prêt à prononcer ta foi d'une façon certaine? Sinon, ne t'inquiète pas, parce que pour dire cette phrase avec toute ma conviction, il faut d'abord se lever et puis il faut faire la route. Ce n'est pas une phrase qui nous arrive comme ça. Mais ne t'inquiète pas non plus parce que après la déclaration de Pierre, Jésus dit, t'as bien dit mon fils, t'as bien dit mon ami, c'est une bonne réponse. Mais tu dois savoir que ta réponse, ce n'est pas de la chair, ni même de ton intelligence que tu l'as donnée. C'est de l'esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi et en toi, et même dans le cœur des personnes qui ne le connaissent pas du tout, c'est cet esprit qui te permet à découvrir mon identité, ma présence. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus me parle toujours. Il se présente devant moi. Il me dit, « Bah oui, je suis la lumière du monde. Si tu veux me suivre, tu vas marcher dans la lumière. » Si tu veux me suivre, tu vas quitter les ténèbres, parce que je suis la lumière. Si tu es fatigué, si tu as peur, si tu penses que ce monde est très injuste ou trop injuste, tu as raison. Mais n'essaie pas de résoudre les problèmes de ce monde tout seul. Viens, viens en moi. Venez-vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Encore une fois, Jésus me dit, voilà, je suis la vérité, je suis ta propre vie, je peux être même ta propre respiration si tu le veux. Pourquoi? Parce que je suis mort et ressuscité. Ah oui, je suis la résurrection et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc, on essaie de nous dire parfois, oui, mais tout ce qu'on vit dans le monde, c'est la volonté de Dieu. Non, je suis sûr que non. Il y a plein de choses dans ma vie que Dieu ne désire pas. Quand j'ai une migraine, Dieu ne la désire pas. Quand je suis fatigué, découragé, ce n'est pas Dieu qui le désire. Si j'ai un jour, j'attrape quelque chose de très grave au niveau de ma santé, ce n'est pas parce que Dieu le désire. Mais Dieu me dit, Yarek, s'il y a quelque chose qui t'arrive, je t'envoie mon fils. Regarde-le, écoute-le et viens, viens tout de suite, viens le voir parce que mon fils va te soulager, parce que mon fils va te donner la force, parce que moi, ton papa céleste, je ne veux pas que tu sois malade, je ne veux pas que tu sois triste, abattu, je ne veux pas du tout que tu meures. Oh non, c'est pourquoi je te donne mon fils. Pourquoi croire à ce que je vous dis? Pourquoi croire à toute cette histoire que je vous raconte? Mais il suffit même de nous dire parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. On me raconte tellement d'histoires qui ne sont pas vraies. Mais cette histoire, c'est une histoire. C'est vécu. Parce que Jésus a dit des choses que personne n'a jamais dit. Il m'a par exemple demandé, Yarek, tu dois aimer tes ennemis. Ben d'accord, mais qu'est-ce que je vais avoir si j'aime mes ennemis? Ah ben, tu vas avoir des ennuis, ben ça c'est sûr. Mais tu dois les aimer. Mais dis-moi Jésus, si j'aime mes ennemis, est-ce qu'ils pourraient devenir mes amis? Peut-être, mais ce n'est pas garanti. Ben, donc, je dois les aimer en tant qu'ennemis, ils vont rester mes ennemis? Ah ben oui, c'est fort possible. Mais tu dois les aimer, tu verras que ça change tout. Ce sont des choses tellement fortes que ça m'interpelle quand même, hein. Jésus, il est très logique. S'il entre dans ma vie, il le fait toujours d'une façon totalement efficace. Parce qu'il fait des signes. Un jour, dans ma paroisse, j'ai dit à mon cher paroissien, écoutez, Jésus, il venait dans le village. Ce que l'évangile raconte, c'est vraiment la vérité. Donc Jésus, il vient dans un village comme Limlet, et les villageois de Limlet viennent tous le voir. Et puis on dit, ah oui, c'est celui qui guérit les malades, qui fait des signes, venons, venons vite. Donc, on a combien de malades à Limlet? Certainement quelques dizaines de cas de cancer, des graves maladies, des petites maladies. tout le monde, tous les habitants viennent, et même au Tigny arrive, hein, donc il y a plein du monde, 5000 malades. Et Jésus fait la prière, ils sont bien guéris. Ah bon, il va à la clinique de Saint-Pierre, le médecin tremble parce qu'ils n'ont plus de travail. Mais oui, il entre à la clinique, il guérit tout le monde. Mais oui, c'était comme ça. C'est ce que l'évangile nous dit. Hein. Ben, je crois pas. Moi, je crois. Donc, s'il faisait des signes tellement grands, pourquoi de ne pas croire? Pourquoi de ne pas lui confier sa vie? Toutes les grandes prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans sa propre vie. Des centaines de personnes l'ont rencontré après sa résurrection dans de plusieurs endroits. Des centaines de milliers de Juifs se sont convertis. Ça, c'est une autre histoire, mais vraiment, j'ai lu un document qui convertit hein, ce fait. Et puis, après sa mort et sa résurrection, jusqu'aujourd'hui, même aujourd'hui, quelque part dans le monde, les gens, pendant mon discours, souffrent, donnent leur sang, leur vie, parce qu'ils veulent rester fidèles à sa parole. C'est très beau. C'est trop beau pour ne pas croire. C'est trop grand pour ne pas vivre. Mais c'est tellement beau et grand qu'en même temps, ça entre exactement dans ma vie. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui est vivant. Il veut absolument que vous et moi, nous soyons aussi vivants. Merci beaucoup.